des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Seille au micro de Canal M qui produit l'émission des livres plein les oreilles depuis maintenant 12 ans, balado que vous pouvez prendre quand vous voulez sur YouTube, sur Apple Podcast, évidemment aussi sur le site de Canal M que je vous encourage fortement à découvrir parce qu'il n'y a pas que cette émission-là, loin de là, ce sont des émissions d'intérêt public, d'intérêt social aussi je dirais, alors donc découvrez Canal M qui produit des livres plein les oreilles. À ce balado-ci, bon, écoutez, on arrive à la fin du mois de janvier. C'est difficile de se réjouir hein, quand on prend connaissance de notre actualité nationale, oui, certes, mais aussi internationale. Et je ne referai pas le monde ici, ce n'est pas mon rôle. Mais disons que les bouleversements qui se déroulent à droite et à gauche, ben, ça me donne des envies de découvrir des auteurs. Des pays en question où ça brasse, où ça bouge et qu'est-ce qu'ils ont écrit, est-ce que ces livres-là ont été enregistrés et de vous en diffuser quelques-uns, par exemple Miguel Bonnefoy qui est issu du Venezuela ou encore Chocofe, pardon pour la prononciation hasard, qui est d'Iran. En seconde partie, Faline Bobier de Caeb qui permet aux personnes à qui la lecture par les yeux est devenue impossible ou par les mains du reste de trouver des livres pour leurs oreilles via les bibliothèques. Elle nous fait trois propositions. Il y aura des nouveautés qui s'annoncent alléchantes avec les noms de Frédéric Lenoir qu'on attend à Montréal et de Pierre Lemaitre, qu'on attend tout court, quand on aime sa plume. Mais d'abord, pendant que nos gouvernements rechignent à faire du livre audio un art non négligeable, eh bien, en France, ils caracolent. Et c'est par là qu'on va commencer. Si, à tout hasard, vous connaissez quelqu'un de bien placé dans la sphère politique culturelle qui pense encore que le livre audio n'a aucun avenir et ne peut en rapporter de l'argent à personne, puisque c'est le nerf de la guerre, j'ai pour vous un extrait d'une étude parue dans ID Books, écrite par Elizabeth Sutton le 9 janvier dernier. Autrement dit, c'est quand même très très récent. Le thème général, économie du livre, études e-books, livre audio. Les industries du livre sonore, un maillon indispensable. Collectivement, ces activités-là génèrent un chiffre d'affaires en euros, en France, de 43,2 milliards. Cette performance traduit une croissance notable de 15% sur 5 ans. Cela représente un taux annuel moyen de 2,9%. Des chiffres encore, permettez-les-moi et notez-les si vous voulez. Plus de 140 000 emplois concernés par l'audio, dont le livre audio en France. Et puis alors, ce chiffre-là, l'essor spectaculaire des livres audio en 5 ans, avec une hausse de 164%. 164% en 5 ans. Alors vous me direz, oui, mais c'est en France, ils sont plus nombreux. Oui, ok, mais supposons qu'on ramène à notre échelle ces chiffres, tiens, à 10%. Oh, puis non, c'est même encore de trop, à 1%. Eh bien, si je ne m'abuse, cela donne un chiffre d'affaires d'environ 1 million d'euros, donc 1,5 million de dollars à peu près, canadiens, hein, je ne pense pas me tromper. Ça pourrait générer 1 400 emplois, quand même, mine de rien. Quant à la croissance de 164%, je n'ai pas fait le calcul, mais imaginez. Bref, je recommence. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Ça va mal dans le monde, ça va mal. Et donc, j'ai eu envie de savoir, entre autres, au Venezuela, on sait tous ce qui s'est passé au début de l'année. Je ne reviendrai pas sur l'aspect politique, ni économique, ni quoi que ce soit de l'affaire. Mais je me suis dit, au Venezuela, quels sont les auteurs? J'en ai trouvé à peu près une trentaine. La plupart, malheureusement, ne sont pas lus en livre audio. Celui qui est le plus lu, c'est un nom qui va vous faire ding, 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 parce que ce n'est pas forcément un nom qui sonne vénézuélien, mais il est vénézuélien, je ne sais plus si c'est par son père ou sa mère. C'est Miguel Bonnefoy. Miguel Bonnefoy, professeur de français, écrivain, il est franco-vénézuélien. Miguel Bonnefoy, il est le fils d'un romancier chilien et d'une diplomate vénézuélienne et il vit en France, quoique il vit sur les deux territoires. Il avait remporté le prix du jeune écrivain en 2013 grâce à sa nouvelle Icare. Son premier roman, Le voyage d'Octavio, a été finaliste au prix Goncourt. On va en entendre un extrait un petit peu plus loin, un petit peu plus tard dans l'émission. En 2021, il a reçu le prix des libraires pour son roman Héritage. Et c'est quelqu'un qui s'occupe de la production d'événements culturels pour la mairie de Caracas. Du moins, qui vote, va bon. Espérons que. Si ce nom-là ne vous dit toujours rien, Miguel Bonnefoy, c'est lui qui a écrit Le rêve du jaguar, dont on a beaucoup parlé l'année dernière. J'en ai diffusé au moins deux ou trois extraits. Pour l'instant, Héritage, on suit l'arrivée d'un certain monsieur Lonsonnier qui arrive du Jura. C'est au Chili au départ qu'il arrive et ensuite c'est une véritable saga. C'est lu par Dominique Pinon. En voici un extrait.
La fièvre typhoïde, déclara-t-il, on le descendra la prochaine escale. C'est ainsi qu'il débarqua au Chili, à Valparaiso, en pleine guerre du Pacifique, dans un pays qu'il ne savait pas placer sur une carte et dont il ignorait tout à fait la langue. À son arrivée, il rejoignit la longue queue qui s'étirait devant un entrepôt de pêche avant d'atteindre le poste de douane. Il s'aperçut que l'agent du service d'immigration posait systématiquement deux questions à chaque passager avant de tamponner leur fiche. Il en conclut que la première devait concerner sa provenance et la deuxième, logiquement, sa destination. Quand vint son tour, l'agent lui demanda, sans lever ses yeux sur lui, « Nombre ». Ne comprenant rien à l'espagnol, mais convaincu d'avoir deviné la question, il répondit, sans hésiter, « Lons le saunier ». Le visage de l'agent n'exprima rien. Avec un geste fatigué de la main, il nota lentement « Lonsonnier ». « Fecha de nacimiento ?» Il reprit « Californie ». L'agent haussa les épaules, écrivit une date et lui tendit sa fiche. À partir de cet instant, cet homme qui avait quitté les vignobles du Jura fut rebaptisé « Lonsonnier » et naquit une seconde fois le 21 mai, jour de son arrivée au Chili. Au cours du siècle qui suivit, il ne reprit jamais la route vers le nord, découragé par le désert d'Atacama, autant que par la sorcellerie des chamans, ce qui lui faisait dire parfois, en regardant les collines de la cordillère, « Le Chili m'a toujours fait penser à la Californie ». Bientôt, Lonsonnier s'habitua aux saisons inversées, aux siestes, en milieu de journée, et à ce nouveau nom qui, malgré tout, avait conservé des sonorités françaises. Il sut annoncer les tremblements de terre et ne tarda pas à remercier Dieu pour tout, même pour le malheur. Au bout de quelques mois, il parlait comme s'il était né dans la région, roulant les airs comme les pierres d'une rivière, trahi pourtant par un léger accent. Comme on lui avait appris à lire les constellations du zodiaque et à mesurer les distances astronomiques, il déchiffra la nouvelle écriture australe, où l'algèbre des étoiles était fugitive, et comprit qu'il s'était installé dans un autre monde, fait de puma et d'araucaria, un premier monde peuplé de géants, de pierres, de saules et de condors. Il fut engagé comme chef de culture dans le domaine viticole de Concha y Toro et créa plusieurs chais, qu'on appelait bodegas, dans les fermes d'éleveurs de lamas et de dresseuses d'oies. La vieille vigne française, sur la robe de la cordillère, réclamait une seconde jeunesse dans ce lambeau de terre, étroit et long, suspendu au continent comme une épée à sa ceinture, où le soleil était bleu. Rapidement, il intégra un cercle fait d'expatriés, de transplantés, de chilianisés, reliés par d'habiles alliances et enrichis par le commerce du vin étranger. Lui qui avait pris la route vers l'inconnu, qui était un humble vigneron, un pauvre paysan, se trouva brusquement à la tête de plusieurs domaines et devint un ingénieux homme d'affaires. Rien, ni les guerres, ni le phylloxéra, ni les soulèvements, ni les dictatures, ne pouvaient désormais troubler sa nouvelle prospérité si bien que lorsqu'il fêta sa première année à Santiago, Lonsonnier bénit le jour où une gitane, à bord d'un navire en fer, avait brûlé une pierre verte sous son nez.
Extrait d'Héritage de Miguel Bonnefoy. Alors, on va changer de voyage, mais on ne va pas changer d'auteur. Et c'est également la voix d'ailleurs de Miguel Bonnefoy qu'on va entendre. Vous allez pouvoir constater comme moi qu'il est en partie français, en partie vénézuélien, et que vraiment, il n'a pas un poil d'accent espagnol quand il parle français. Mais quand il parle espagnol, c'est comme une évidence que c'est sa langue d'origine. On va y aller avec un extrait de Le Voyage d'Octavio, où l'histoire d'un jeune analphabète vénézuélien qui va vivre toutes sortes de tribulations et qui va se réapproprier son passé et celui de son pays. À noter qu'il y a en principe dans le livre audio plusieurs musiques vénézuéliennes interprétées par plein de gens différents. Je n'ai pas eu accès à ces musiques-là, mais j'ai choisi pour vous de vous faire entendre un court extrait de la chanteuse certainement la plus vénézuélienne de Montréal, Soraya Benitez.
Sordas de mi gente bella, cuántos de ellos pasan por mi mente y me duele no volver a verles. Cuánta historia.
Voici l'histoire du citronnier du Seigneur tel qu'on la trouve à peu près sous la plume du poète André Eloy Blanco dans les livres de mon pays. C'est ainsi que la maison du vieux créole fut rasée et qu'on éleva une église aux murs de pierre et au parquet sali face au citronnier. On nomma l'église comme le village, Saint-Paul du Limon. C'était une humble basilique, sans orgue ni ornement, au plafond lambrissé qui finissait sur une arrière-cour plantée de grenadiers. Le bénitier ne manquait jamais d'eau. La nef faisait retentir les cantiques jusqu'aux abords du village. Les vitraux racontaient aux illettrés les passions et les supplices du calvaire, tandis que, dehors, la chaleur était si lourde que toutes les portes restaient fermées jusqu'à l'heure des vêpres. Aucun pape ne vint consacrer l'autel et le chevet. Aucune sculpture ne vint habiter le cloître. On posa l'effigie du Nazaréen de Saint-Paul contre un des piliers de la nef, et les femmes se levèrent avant l'aube pour mettre des sous dans le tronc. De nombreux pèlerins venaient de loin pour se recueillir devant la statue. La rumeur atteignit les abbayes. On vit apparaître des moines, des chercheurs d'or, et même un curé qui, sentant l'amande et la muscade, ignorant le latin, s'occupa de garder la relique. Au premier meurtre du village, on construisit avec les mêmes pierres la première prison et le premier cimetière. Dans les ruelles concouraient des voleurs et des vagabonds, puant le bois et l'opprobre, mais aussi des hommes de diligence qui avaient marché depuis la ville pour acheter moins cher. C'étaient des montagnards et des caravaniers, des chrétiens suivant la promesse d'un archevêque, des nomades. Ils s'arrêtaient quelques jours pour manger chaud. Tous ces hommes répétaient qu'ils n'étaient que de passage. Ils visitaient les cantines et les dépendances, souriaient à une douce aubergiste et, finalement, y restaient toute leur vie. À la lisière d'un petit terrain, ils élevaient alors un moulin, labouraient un potager près d'une gorge d'eau et s'abandonnaient sans résistance, sous un ciel dont la rondeur faisait rouler le soleil à un temps qui ne connaissait pas de saison. Les gens prirent l'habitude de mesurer l'importance d'une maison au nombre de ses fenêtres. On écrivait le nom des rues sur des plaques en bois portant les noms de ceux qui les avaient habitées. La rue de l'hôpital était celle de l'hôpital, la rue des sœurs celle du couvent. Dans la rue Docteur Domingue habitait le vénérable Docteur Domingues et dans la rue des Cornards, qui ne touchait en rien à l'honnêteté des dames, se trouvait l'abattoir où l'on déchargeait les cornes du bétail. Tout n'était que musique et vacarme, brume et soleil. C'était une époque simple et craintive. Avec le temps, touffu et foisonnant, le flanc de la colline se gonfla de baraques et de blocs, la vie ne cessant d'apparaître.
Ah, la voix de Miguel Bonnefoy qui lisait son propre livre Le voyage d'Octavio et la voix de Soraya Benitez que je vous recommande chaudement d'aller écouter sur toutes les plateformes de streaming ou encore de YouTube. C'est quelqu'un de très rare, Soraya. D'un citronnier et du Venezuela, on va faire un saut en Iran au pied d'un prunier sauvage et d'un chêne. Quand s'illumine le prunier sauvage, c'est un livre de Shukufeh Azar, qui est une jeune iranienne. Elle est d'origine iranienne. Elle est née en 1972. Elle a étudié la littérature. Elle est devenue journaliste. Elle a écrit bon nombre d'articles qui lui ont valu de passer quelques séjours mémorables en prison, à tel point qu'elle a dû fuir son pays. Et depuis 2011, elle a obtenu l'asile politique en Australie. Elle a écrit en 2021 « Quand s'illumine le prunier sauvage », et qui nous ramène en 1979, alors que la révolution islamique gronde à Téhéran. Une des plus vieilles monarchies du monde tombe pour le régime répressif de Roménie, c'était à une autre époque. On sait maintenant pourquoi en ce moment c'est en train de se casser la figure. Je referme la parenthèse. Et donc, une famille est contrainte de fuir la capitale. Dans l'extrait qu'on va entendre, pour l'instant, tout est paisible, mais la répression court et finalement, ils ne vont pas échapper à sa violence et au chaos qui s'étend rapidement à l'ensemble du pays. Extrait de « Quand s'illumine le prunier sauvage » de Shukufeh Azar, c'est lu par Bertrand Pazos.
Au matin du 19 août, quand papa rappela à maman de sa voix enjouée que c'était l'heure du thé et du pain condac, il savait bien qu'elle n'était pas prête de renoncer à sa dernière lubie. Aussi s'empressa-t-il d'ajouter « S'il y a une chose que nous avons héritée de nos ancêtres, c'est cette passion pour tout ce qui est nouveau, une passion pour l'impossible. » Puis le brouillard s'épaissit et enveloppa nos silhouettes, notre lanterne, notre feu et notre bouilloire. Il offrit à maman une autre occasion de parcourir l'immensité du monde, qui, si vaste qu'il fût, avec ses religions et ses livres, ses guerres, ses révolutions et ses exécutions, ses naissances, sans oublier le plus haut chêne de notre forêt, n'était rien de plus qu'un grain de poussière dans l'univers. À 44 ans, maman vieillit d'un coup, et en l'espace de 3 jours, ses cheveux devinrent tout gris. Quand elle revint à la maison, Beta fut la première à la revoir. « Il y a une vieille femme chez nous !» s'écria-t-elle. Papa et moi accourûmes au salon où ma mère, installée sur le divan, se limait l'ongle du pouce gauche avec un calme déconcertant. Soudain, l'illumination de maman et les 3 jours qu'elle avait passés sur son arbre me donnèrent une idée. Elle commençait à polir l'ongle de son pouce droit quand je me mis à vider la bibliothèque de mes livres. Le sourire aux lèvres, j'annonçai à ma famille que si des objets venaient à disparaître dans la maison, ils seraient en ma possession. Tous me dévisagèrent, Beta avec des yeux étonnés, maman de son regard surnaturel, et papa avec le petit sourire satisfait dont il était coutumier. Mais sans plus me soucier d'eux, j'allai dans l'atelier de mon père où je pris ce qu'il me fallait, un marteau, des clous, une scie et de la corde. Il me fallut 5 jours pour construire la cabane que je voulais. À l'abri des regards, au sommet du plus haut chêne de la forêt, celui-là même qui avait été le théâtre de l'ascension de ma mère, assis sur le divan vert en face de maman qui se limait les ongles d'un air absent, papa la regardait en songeant que lui, L'habile fileur de soie grâce auquel notre famille prospérait, lui, l'héritier incontestable du don d'interagir avec des créatures surnaturelles, n'avait jamais eu la chance de voir léviter son épouse. Quand il l'avait vue pour la première fois, sur la route de Darband, Rosa avait tout juste 17 ans et se consumait d'un amour impossible. Un beau jour, portée par cet amour, elle s'était soudain élevée dans les airs au-dessus de la rue Nasser Khosrov, de ses passants et de ses librairies d'occasion, pour la première et la dernière fois. À peine 6 mois avant de connaître mon père, elle avait fait une autre rencontre, bien plus grisante mais sans avenir, une rencontre tellement exaltante que dès lors et jusqu'à la fin de ses jours, elle se mit à pousser des soupirs à nul autre pareil. De longs et profonds soupirs, qu'elle dissimulait de son mieux, quoique pas assez bien pour qu'ils échappent à l'attention de mon père, année après année.
Extrait de « Quand s'illumine le prunier sauvage » de Choucoufé Hasard, lu par Bertrand Pazos. Dans Actualité cette semaine, il y a un journaliste qui s'appelle Ossiné Boadjera qui s'est demandé quels étaient les livres les plus achetés dans les librairies indépendantes du Québec en 2025. Que je suis allée voir ça, et ben, j'y ai trouvé des belles surprises, entre autres que 50% de ces livres-là sont québécois. Donc, ça prouve que quand même, nos auteurs sont appréciés par les lecteurs d'ici, et ça me fait très chaud au cœur. Ce qui est moins drôle, c'est que parmi ces 50% de livres québécois, il y en a seulement une poignée qui ont été enregistrés en audio, et bien sûr j'en ai parlé de tous, par exemple Baignade d'Andréa Michaud qui est en 3e position, il y a Coucoum de Michel Jean qui est en 10e position, La Dèche d'Hakim Gagnon qui est en 13e position. Pour les autres, il y a aussi Là où je me terre de Caroline Dawson. Bon, Pascal Monpetit n'a toujours pas enregistré Le Bézoar qui est en 19, Rue Duplessis Ma petite noirceur, ça ce serait peut-être sur Audio Radio-Canada mais j'ai un doute. Le dernier Boucard Diouf, Déconnecté pour se rebrancher aux racines de notre humanité, n'est pas en audio. Plage Laval de Raphaël Germain est en audio, malheureusement. Je voulais vous en diffuser un extrait, lol. On a eu un petit bug, alors ce sera pour une semaine à venir. Moralité, je me suis rabattue sur les essais parce que les essais tiennent aussi une grande part de vos choix. Et il y a notamment celui-ci qui n'est pas québécois, mais qui est L'heure des prédateurs de Giuliano da Empoli, celui qui nous avait donné l'hommage du Kremlin. Ça s'appelle L'heure des prédateurs, je vous l'ai déjà dit. Écoutons un extrait, puis je verrai après si j'ai du temps pour vous en parler un peu plus, mais c'est tellement éloquent l'extrait que vous allez comprendre de quoi il s'agit.
Ce petit livre est le récit de ces faits, écrit du point de vue d'un scribe aztèque et, à sa manière, par image plutôt que par concept, dans le but de saisir le souffle d'un monde au moment où il sombre dans l'abîme et l'emprise glacée d'un autre qui prend sa place. New York, septembre 2024. Quatre hommes, vêtus de marron, accompagnent le président de l'autorité palestinienne. L'un d'eux est un peu plus grand, un autre un peu plus gros, mais tous ont les mêmes cheveux gris, la peau rugueuse, la mine usée de bureaucrates ou d'anciens guerriers devenus bureaucrates. Lorsqu'ils s'assoient, leurs pantalons bruns remontent sur des chaussettes courtes, grises, qui plongent dans leurs chaussures bon marché. Alors Cabas entonne son monologue sur la tragédie en cours. Les hommes en marron restent parfaitement inanimés, une seule expression de vague regret sur les quatre visages. À un moment donné, leur chef établit un parallèle avec les guerres de 1948 et de 1967 qui ont contraint des centaines de milliers de Palestiniens à l'exil. Qui sait où eux se trouvaient alors? Tout juste nés, sans doute, puis adolescents, ballottés on ne sait où par les hasards violents de l'histoire. Leur expression ne change pas. Ils sont trop fatigués. Elle ne change pas non plus quand le président français prend la parole. Certains d'entre eux peut-être comprennent la langue. Les autres doivent attendre la traduction de l'interprète. mais rien ne semble pouvoir percer le mur de leur épuisement, alors même que la conversation entre les deux chefs d'État s'anime. Jusqu'à ce qu'un mot soit prononcé. Un seul mot, inattendu dans le flux de tous les mots convenus, classés à l'avance parmi les millions de mots qui peuplent ce type de rencontre. À ce mot, les hommes en marron s'animent. Leurs corps affaissés se tendent vers les deux présidents, leurs yeux soudain brillent, ils sortent des petits carnets, commencent à prendre des notes et échangent des regards furtifs, presque réjouis. Personne n'incarne mieux que Lula ce mélange d'hommes d'État et de gamins que Mérimée observait déjà chez Palmerston. Il s'embrouille, appelle Macron Sarkozy, il en a trop vu, lui aussi, une vie d'ouvrier, 30 ans de lutte, la prison, puis deux mandats de président du Brésil, la Bolsa Familia qui a tiré des millions de Brésiliens de la pauvreté absolue. Puis, la chute. À nouveau, la prison pour un scandale absurde. Et enfin, l'acquittement, la résurrection. Et à 76 ans, une nouvelle élection à la présidence. Aucun dirigeant au monde ne peut se targuer d'un tel parcours. Lula plaisante, il provoque, il a tout vu, mais il est encore capable de fulgurance. Il sait faire rire et il sait émouvoir. Il entre dans une salle pleine de chefs d'État et la fait sienne. À la fin de la réunion, il évoque Haïti, sa capitale aux mains des gangs. Il s'engage à s'en occuper. Le président français lui présente Dany Laferrière, justement ressortissant de là-bas. Lula s'enthousiasme, embrasse Dany, lui tape dans le dos comme un frère perdu de longue date. « Et voici un autre écrivain, » lui dit Macron. « Mais je ne suis qu'italien, » lui dis-je un peu embarrassé. Lula rigole, me console d'une accolade. Le garde du corps du président iranien s'est placé devant la porte de la petite salle où son patron discute avec le président français. L'agent du groupe de sécurité de l'Élysée s'approche de lui. « Monsieur, vous ne pouvez pas stationner là. » L'iranien ne bronche pas. Le français insiste. « Monsieur, je vois que vous portez une arme, c'est inadmissible. Vous êtes ici en territoire français. » L'Iranien le dévisage. « Mon président se trouve à l'intérieur. » « Le mien aussi. Je vous assure qu'il ne risque rien. » L'Iranien accepte de bouger de quelques centimètres. L'agent du Secret Service américain intervient à son tour. « Monsieur, vous n'avez pas le droit de stationner là. » L'Iranien ne bronche pas. En plus, je vois que vous portez une arme. C'est inadmissible. Vous êtes ici en territoire américain. Le français a un moment d'égarement. L'Iranien en profite pour reprendre sa position d'origine devant la porte. Monsieur, vous ne pouvez pas stationner là. Et le manège reprend depuis le début.
« 2023-2024, quatre hommes sont réunis à New York pour refaire le monde. » C'est ça, cet essai de Giuliano da Empoli, « L'heure des prédateurs ». C'est ainsi qu'il... parce que lui est le témoin et donc il raconte dans cet essai. Ça m'a l'air d'être un chef-d'œuvre que je vais demander à Gérald Cousineau de lire pour nous, tiens, à des livres pleins les oreilles. C'est le moment à l'émission des livres pleins les oreilles, au balado, où un jour, je vais finir par le dire, de vous présenter Faline Bobier, qui est avec nous, pour nous présenter quelques livres. Salut Faline!
Bonjour Clotilde, ça va?
Oui, ça va très très bien. Merci encore une fois d'être là et de penser aux gens qui sont en difficulté perceptuelle ou visuelle et qui peuvent, via leur bibliothèque et via CAEB, avoir accès à des livres accessibles absolument gratuits. Vous nous arrivez avec, entre autres, une proposition d'un roman signé Guillaume Morissette, je crois.
Oui, en fait, j'ai choisi deux écrivains de polar qui sont au Québec. Et le premier, comme vous dites, c'est Guillaume Morissette et son livre « Le poids des années ». Alors, Morissette, et je crois qu'il habite à Trois-Rivières. Donc, c'est quelqu'un qui est polymathe depuis l'adolescence, membre actif de Mensa au Canada. Et qui réside, comme j'ai dit, à Trois-Rivières. Mm-hmm. Donc, Le poids des années, c'est son 11e roman. Et il s'agit d'un suspense qui est assez palpitant. Il s'agit d'un corps qui est retrouvé, identifié comme Louis-Pierre Masson, qui était un ancien professeur d'éducation physique. On avait perdu la trace de cet homme il y a 3 ans, alors qu'il venait d'être accusé d'attouchement sur des élèves. Alors maintenant, on retrouve son corps après 3 ans. Et au début, la scène de crime laisse croire à un suicide, mais les résultats de l'autopsie forcent les autorités à revoir les faits, et donc il s'agit d'un meurtre.
Mettons qu'il y a peut-être des gens qui lui en veulent beaucoup. Si
oui,
je comprends bien.
Bon.
Morissette, donc, effectivement, auteur trifluvien, auteur de Québec, qui a ses lecteurs. Hein, énormément de gens le suivent. Hein. Dès qu'il y a un livre qui sort, c'est un petit peu la ruée, non pas vers l'or, mais vers Morissette. Voulez-vous qu'on écoute un extrait tout de suite? Le poids des années.
Oui.
Guillaume Morissette.
C'était sa 3e visite chez le psychologue. La vérité, c'est qu'il n'y serait jamais allé par lui-même. Il avait sous-estimé l'expérience d'Eugène Blais et s'était ouvert aujourd'hui comme jamais auparavant. Personne avant cet homme, dans la vie d'Éric Arsenault, n'avait été mis au courant de la série d'attouchements dont il avait été victime pendant les mois de mai et juin 1984. Une cinquantaine de jours où tout avait basculé. La fin des classes avait mis un terme aux mains baladeuses de l'enseignant d'éducation physique et la vie avait fait son chemin. Le petit Éric était devenu grand et fort. Tourmenté aussi. Pas mal tout le monde avait payé le prix de sa colère, y compris ses proches, et la justice, par le verdict d'un juge, avait décidé qu'il était temps qu'Arsenault suive une thérapie pour dompter ses démons. Alors, il est allé s'asseoir sur la chaise en cuir de type Lazy Boy, mobilier symbolique de la soumission mentale ultime. Le vieil Eugène n'avait pas perdu de temps. Psychiatre et psychologue, il se spécialisait dans les détenus et les repentis. Il avait vu clair et ouvert une brèche dans la tête d'Arsenault dès la 3e séance. Une grosse brèche.
Oui, un sujet dont on parle beaucoup, c'est sûr que ça alimente beaucoup nos lecteurs, mais personnellement, je trouve que ce n'est pas un mal. Tous des loups, on reste avec un auteur québécois pur jus.
Oui, c'est ça. Je crois qu'il vit aujourd'hui dans les cantons de l'Est. Mm-hmm. Mais c'est quelqu'un qui est originaire du Manitoba, en fin de compte, ex-journaliste et réalisateur de Radio-Canada, qui a grandi au Manitoba. Et dans son livre, donc, qui est aussi un polar, il s'agit d'un homme en fuite, accusé d'avoir assassiné froidement sa femme et son enfant, et qui, pour se cacher, il se va dans la forêt boréale. Donc, un des éléments qui est intéressant avec ce livre, c'est que, justement, que l'action se passe dans le Grand Nord canadien. Et il y a un jeune policier, Matthew Colwood, qui arrive tout juste en poste dans la région. Donc, c'est quelqu'un, un jeune policier idéaliste, qui se retrouve dans ce Grand Nord canadien, un petit hameau où il y a des autochtones, des métis, quelques blancs et 2 policiers.
Donc, et apparemment, où il ne se passe pas grand-chose, ou plutôt peut-être qu'il se passe beaucoup de choses, mais on n'en fait pas cas. D'après ce que j'ai entendu de l'extrait que vous m'avez envoyé, on va écouter un extrait de « Tous des loups ». C'est écrit par Ronald de la Vallée et c'est lu par l'auteur.
Quelles sont nos fonctions ici? Nos fonctions, c'est-à-dire... À quoi passes-tu tes journées? T'as vu le drapeau dehors, Fesouchenko? Le matin, tu le hisses. Le soir, tu l'amènes. Ensuite, une fois par an, le jour du traité, tu cires tes bottes, tu te mets en grand uniforme et tu accompagnes le représentant du commissaire aux affaires indiennes dans les villages environnants. Vous distribuez des billets de $5 à tous les membres de la tribu, hommes, femmes et enfants. Au nom de sa gracieuse majesté. Enfin, quand je dis « vous », toi tu fais rien. T'es là pour ajouter un peu de couleur, comme un arbre de Noël. Ensuite, tu fais de même dans les autres villages. Il y en a une dizaine. Ça t'occupe une bonne semaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Demande Colwood. qui paraît sur le point de s'inquiéter. Je te l'ai dit, on arbore le drapeau.
Oui, entre, mais il n'y a vraiment rien à faire là, mais on devine qu'il y a beaucoup de violence, hein, qui se, la preuve, ce crime dans, de cet homme, hein, qui est en fuite et qui est donc accusé, vous nous l'avez très bien raconté, d'avoir assassiné froidement sa femme et son enfant. On change complètement de sujet, on change de pays aussi.
Oui.
Allez, je vous laisse le présenter.
Oui, le troisième titre, c'est assez différent de ce que, dont on vient de parler. Donc, c'est un livre Chasse sur ordonnance. C'est écrit par une écrivaine japonaise qui s'appelle Siu Ishida.
Oui.
Elle est née en 75 à Kyoto. Et son livre, le livre dont on va parler, a été un best-seller et salué par des journaux comme The Guardian, le New York Times.
Ah oui.
Alors, il s'agit, je pense que c'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour ceux qui aiment les chats et la littérature japonaise. Alors, il s'agit d'une petite clinique psychologique,
oui,
qui est située dans un coin très difficile à trouver au cœur de Kyoto. Et il y a là un docteur Nikkei qui travaille avec son infirmière Chitose, et ils ont une certaine particularité parce que ils ne prescrivent pas des médicaments mais plutôt des chats, donc
comme médicament, quoi, comme prescription.
Oui, comme
on va vous prescrire un chat, madame.
Oui, c'est ça. Oui. Alors, comme j'ai dit, ouais, pas pour tout le monde, mais
non,
je pense que d'après ce que j'ai lu, ce livre, comme j'ai dit, ça a été un best-seller et elle a écrit deux livres de suite.
Oui.
Qui parle de la même clinique.
Et figurez-vous, ouais, que ce livre-là, et c'est du hasard, j'avais décidé, avant que je sache de quoi vous alliez parler, que j'en parlerai dans mes nouveautés qui suivent.
Ah, okay.
C'est que c'est fou quand même la vie. Eh oui, c'est
oui,
comme ça.
Oui.
Alors, écoutons un extrait de ce qu'on peut appeler le tome 1 de Chat sur ordonnance de Siu Ishida.
« Je veux quitter mon travail », murmura-t-il.
« Je vois. »
Shuta s'agita. Le docteur avait répondu du tac au tac. Non, se reprit le jeune homme. En fait, ce n'est pas la vérité, je ne veux pas quitter l'entreprise. C'est juste que je réfléchis à la manière dont je peux y rester. Je travaille dans un établissement financier, une société de courtage qu'on voit dans les publicités. C'est très connu, mais les conditions de travail s'y sont fortement dégradées.
Je comprends bien, dit doucement le médecin,
dont le coin des lèvres se relevait discrètement.
« Je vous prescris un chat, et nous allons voir comment cela évolue. »
Il recula en faisant racler les pieds de sa chaise sur le parquet.
« Chitose, apportez le chat, je vous prie. »«
Oui, » répondit une voix de l'autre côté du rideau. Quelques secondes plus tard, l'infirmière au teint d'albâtre fit son apparition. Shuta ne l'avait pas remarqué à l'accueil, mais elle avait dans les yeux un éclat des plus particuliers. C'était une beauté discrète. Elle scruta le patient d'un air soupçonneux.
« Vous êtes sûr de lui, docteur Nikkei ?»«
Mais oui, parfaitement.
» Et donc, il va repartir avec un chat sous son bras. Et c'est que ça, hein. C'est des cas comme ça successifs qui ont toujours du mal à se rendre à la clinique et qui repartent tous avec un minou. Avec un minou. Voilà.
C'est ça. Ouais, j'ai lu le commentaire d'une lectrice qui a bien aimé le livre, mais elle a dit en même temps, il y a des personnages qui sont plus ou moins intéressants.
Donc, ah, c'est
un peu comme des nouvelles. Ça dépend si vous aimez ou non la personne.
Eh bien, alors, écoutez, s'il y en a qui ne sont pas intéressants, on les saute et puis on s'intéresse à ceux qui nous parlent un peu plus. Merci beaucoup, Faline Bobier. Je rappelle que Kaeb est à votre disposition pour aller vous chercher des livres accessibles. On en lit ici même chez Vues et Voix pour vous, pour Kaeb et pour les personnes qui en ont besoin. Mais aussi, vous avez aussi des livres qui se retrouvent dans le commerce. Hein. C'est vraiment intéressant parce que le catalogue est très large. Merci beaucoup, Faline.
Ok, merci. À la prochaine.
À la prochaine. Au revoir. Alors attention, un chat peut en cacher un autre. On va rester avec Chat sur ordonnance, tome 2, comme je le disais à Faline Bobier il y a quelques secondes. Celui-ci s'appelle Un chat matin, midi et soir. Et c'est toujours de Siyu Ishida. Et c'est lu par François Berland. Il y a une critique d'une lectrice chez Babelio qui m'a semblé très chouette et qui dit « C'est un recueil tendre et réconfortant qui mêle la douce compagnie des chats au poids silencieux des difficultés humaines. Chaque histoire relie le lecteur à des personnages qui font face au deuil, à la solitude, à la maladie ou au changement et qui, grâce à l'arrivée inattendue d'un chat, trouvent réconfort, guérison et, dans certains cas, la force de continuer à avancer. Cette lectrice dit aussi « L'écriture d'Ishida est délicate mais percutante, capturant les petits moments du quotidien qui comptent souvent le plus. La manière dont chaque compagnon félin est présenté et symbolique mais jamais forcé, ce qui donne aux histoires une résonance à la fois émotionnelle et universelle. Si vous avez déjà connu la présence constante d'un animal de compagnie dans les moments difficiles, vous reconnaîtrez la vérité dans ces pages. » J'aurais bien aimé qu'à un moment donné on nous parle un peu plus d'un chat, mais dans tous les extraits que j'ai trouvés, on nous parle toujours des patients qui cherchent la clinique et qui finissent par rebondir comme un chat chez le docteur Niquet. En voici un autre extrait de Un chat matin, midi et soir.
L'impasse était toujours aussi déserte. La voix fortement marquée de l'accent de Kyoto continua de tomber sur elle.
« Ma foi, puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, montez. Nous sommes au dernier étage, avant-dernière porte. Ne vous en privez pas. »«
Bah, si, je vais me priver, mais enfin... » Je ne vais tout de même pas sauter à votre rencontre. Remarquez, je peux tenter, mais il s'agit de ne pas se planter. Ah non, je n'y arriverai pas. Quoique... Bah, je ne risque rien.
Se disant, le propriétaire de la voie passa tout l'avant de son corps à travers l'encadrement de la fenêtre. Moé, terrifié, cria sans même réfléchir « Arrêtez, j'arrive !» Elle se rua vers le hall d'entrée, s'engouffra dans la cage d'escalier et grimpa les marches à toute vitesse. Arrivée au dernier étage, elle alla directement frapper à l'appartement indiqué. La porte en métal, à l'image de l'immeuble, datait d'une autre époque. Sa peinture s'écaillait de part en part, et elle semblait très lourde. Moé frappa plusieurs fois sans obtenir de réponse. C'était peu dire que la situation n'avait rien d'engageant. Mais la voix de l'homme à la fenêtre l'intriguait. Elle lui avait semblé douce lorsqu'elle tombait du ciel, avec ses accents de Kyoto qui vous donnaient l'impression de vous comprendre et de vous accepter. « Cette voix m'appelait. » La jeune femme s'empara de la poignée. Elle voulut la tourner, mais sentit une résistance. Loin d'abandonner, elle y mit plus de vigueur, et le battant finit par pivoter sur ses gonds. On tombait directement face à une sorte de guichet ouvert par une petite fenêtre. C'est un cabinet médical, en fait. Moé nota un minuscule canapé qui aurait eu du mal à accueillir plus d'une personne et demie, mais il n'y avait pas âme qui vive.
Excusez-moi ?
Pas de réponse. Où donc se trouvait l'homme qu'elle avait vu par la fenêtre ? Elle était sur le point de repartir lorsque lui parvint une voix féminine aux intonations tranchantes.
Qu'est-ce qui vous a pris, docteur Niquet ?
Celle qui parlait était en colère et ne cherchait pas à le cacher. Il y avait une porte au-delà du canapé, derrière laquelle on se disputait. Moé s'avança et l'entr'ouvrit. Elle aperçut de dos une femme en blouse d'infirmière. Les poings fichés sur les hanches, elle toisait son interlocuteur de toute sa hauteur.
« Avez-vous perdu la tête ? Nos patients ne vous suffisent pas. Vous devez aller en dénicher d'autres en les hélant au hasard dans la rue. » Vous avez donc tant de temps libre ? Ah ça, pour vous tourner les pouces, vous tournez les pouces.
Allons, allons, pas de quoi s'emporter, répondit la personne incriminée, dont la voix était celle du jeune homme penché à la fenêtre quelques minutes plus tôt. Notre patiente est venue jusqu'au pied de l'immeuble, il eût été dommage de la laisser repartir. Il ne s'agit que d'échanger quelques mots, rien de grave.
Comment ça, rien de grave ? Et notre patient prévu, qui n'est pas encore arrivé ? Vous ne faites que retarder davantage son rendez-vous ? Certes, certes. Bon, mais voyez-vous, il ne vient pas. Il faut bien que je m'occupe en attendant.
Et devinez avec quoi Moé va repartir chez elle. Ben oui, un minou. Bon, est-ce que je me plains? Est-ce que le bureau des plaintes est encore ouvert? Oui, il est encore ouvert. On pourrait-tu, s'il vous plaît, avoir des extraits pertinents de livres quand, par exemple, il s'agit de chats? On pourrait-tu, s'il vous plaît, parce que elle, par exemple, elle repart avec un chat siamois qui se révèle une terreur totale. Ça aurait été intéressant comme extrait. Enfin bon, c'est pas grave. Notez quand même chat sur ordonnance de Siyu, S-Y-O-U Ishida, I-C-H-I-D-A. Ce sont deux tomes que vous pouvez maintenant vous procurer sur toutes les plateformes de livres audio. Ça nous vient de chez... Je pense que c'est Audiolib, mais bon, en tout cas, peu importe. De toute façon, si vous faites livre audio, un chat, matin, midi et soir, vous allez tomber dessus. De la même façon que vous allez tomber sur les 5 piliers de la sagesse, 2 points, petit manuel de résistance intérieure. Un point commun avec les chats, la sagesse, peut-être. Ce livre de Frédéric Lenoir, bon, Frédéric Lenoir, philosophe, faut-il le présenter en ce moment? Il est avec Christophe André, Fabrice Smidal et quelques autres, la coqueluche des gens qui aiment la philosophie, qui en dévorent comme des romans. Et dans les 5 piliers de la sagesse, eh bien, il nous fait découvrir les 5 doigts de la main, ce qui pour lui peut nous permettre de parvenir à la sagesse, c'est-à-dire la connaissance, l'amour, l'éthique, la présence et l'acceptation via les messages de Bouddha, Lao Tseu, Socrate, Platon, Épicure, Jésus, Épictète, Rumi, Montaigne ou encore, évidemment pour l'éthique, Monsieur Spinoza. Et tous s'accordent sur des principes essentiels qui nous aident à gagner en liberté, en amour, en conscience, en sérénité et en joie. Vous l'aurez compris, c'est un livre que vous n'allez ouvrir que si vous en ressentez le besoin. Il y en a d'autres qui vont dire « Non, moi, alors vraiment, j'en ai rien à faire de tout ça. » Si, par contre, vous êtes dans l'embarras, si vous n'êtes pas certain en ce moment de ce que vous faites de votre vie, si vous n'êtes pas capable peut-être de vivre le moment présent avec sérénité, quel que soit le moment présent, qu'il soit dans la joie ou qu'il soit dans la douleur, j'ai l'impression que c'est un livre à mettre, peut-être pas entre toutes les mains, mais en tout cas entre les vôtres, les 5 piliers de la sagesse. Petit manuel de résistance intérieure de Frédéric Lenoir. En voici un extrait lu par André Nerman.
La sagesse, elle, opère un déplacement radical. Elle invite à un travail intérieur. Elle suggère que bonheur et salut ne se conquièrent pas à l'extérieur de soi, mais dans le sanctuaire de la conscience. Le regard n'est plus tendu vers l'autel, mais vers l'âme. Il ne s'agit plus d'apaiser des puissances célestes, mais de s'éveiller à sa propre humanité, de purifier le regard, de cultiver la justice, la paix intérieure, la lucidité, la joie de vivre. Une vie bonne et heureuse. C'est ainsi que s'impose une première définition de la sagesse, simple en apparence, mais riche de sens. La sagesse est la quête d'une vie bonne et heureuse. Deux mots, deux directions, inséparables et pourtant distinctes. Une vie bonne, vivre en accord avec le bien. Une vie heureuse, vivre dans une forme d'épanouissement durable. L'une engage notre rapport aux autres, l'autre notre relation à nous-mêmes. Vivre selon le bien, c'est cultiver la justice, le respect, la générosité. C'est sortir du cercle étroit de l'ego pour entrer dans une conscience élargie où chaque être compte, où chaque geste a du poids. C'est vouloir le bien des autres autant que le sien propre. C'est choisir, chaque jour, de ne pas nuire, de ne pas humilier, de ne pas se refermer. Ce n'est pas être parfait, mais être en chemin. c'est poser des actes qui rendent le monde un peu plus habitable. Vivre heureux? Ce n'est pas simplement collectionner des plaisirs. Le plaisir est fugace. Il est une vague qui vient caresser le rivage, puis s'éloigne. Il naît d'un désir satisfait, boire, manger, rire, toucher, regarder. Mais il s'éteint aussi vite qu'il est venu. Et il appelle aussitôt un autre désir. Le plaisir est précieux, bien sûr. Comme l'a dit Épicure, il n'y a pas de bonheur sans plaisir. Mais le plaisir n'est qu'un éclat du bonheur, non sa source profonde. Le bonheur, lui, est un état d'être. Il ne dépend pas seulement des circonstances, mais de notre manière de les traverser. C'est une forme de paix intérieure, une clarté du regard, une harmonie entre ce que l'on vit, ce que l'on veut et ce que l'on est. Ce bonheur suppose la conscience, être capable de le reconnaître quand il est là. Car combien d'êtres humains ont vécu des années dans une relative sérénité sans jamais s'en rendre compte, jusqu'au jour où tout bascule. Comme l'aurait dit le poète Jacques Prévert, « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. »
C'est le genre de livre, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je l'aurais arrêté au moins 15 ou 20 fois là, pour réfléchir à ce qui vient d'être dit. Alors, si des fois, Frédéric Lenoir vous inspire et que vous désirez en savoir plus, eh bien, sachez qu'il est à Montréal, là, il va arriver dans quelques jours, et le jeudi 5 février prochain, il sera au Théâtre Saint-Denis à Montréal à 19h30 pour présenter une conférence sur les 5 piliers de la sagesse. Frédéric Lenoir, je suis allée vérifier, il reste quelques billets. Une nouveauté qu'on attend parce que c'est la suite et la fin des années glorieuses de Pierre Lemaître, le tome 4. Personnellement, c'est une série que j'ai dévorée. J'avais tellement hâte que ce livre-là sorte en librairie, mais aussi en audio. En audio, c'est Pierre Lemaître lui-même qui le lit. Ça, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais je peux comprendre qu'il ait eu envie de le faire. Mais tout le monde n'est pas Daniel Pénac qui veut. Mais enfin, ça fait rien parce que le livre reste ce qu'il est. La série Les Années Glorieuses reste ce qu'elle est, c'est-à-dire une série absolument magique, écrite donc par Pierre Lemaître. Là, dans ce livre-là, eh bien, tout commence par un incendie, par des personnages complètement fous, un bébé, une grosse madame, un sanglier, puis Paris, transformé par des travaux titanesques, le cœur d'un homme écartelé, le monde rural menacé, des femmes qui sortent de l'oubli, une bombe qui explose. Allez, envoyez l'extrait.
François, qui allait recevoir le prix du Pont des Arts pour son troisième roman, Sans nouvelles de vous, montrait un visage sur lequel pas mal de gens se méprirent. On l'aurait espéré plus enjoué. Or, il paraissait plutôt grave, inquiet presque, au point que certains attribuèrent cette attitude à une fatuité qui ne lui ressemblait pas. Nine, son épouse, qui le connaissait mieux que personne, l'avait remarqué la première. Il était depuis quelques jours soucieux, absorbé par des pensées silencieuses. La raison de ce comportement lui échappait. « Je réfléchis à mon prochain livre », avait-il lâché lorsqu'elle l'avait interrogé. N'importe quelle femme aurait ressenti une inquiétude plus intime. Pas Nine, ce n'était pas dans son tempérament. À ce moment, leurs regards se croisèrent, ils échangèrent un bref sourire. C'est fou ce qu'il la trouvait séduisante. L'assistance fut rappelée à la circonstance quand le président du jury tapota sur son micro pour attirer l'attention de tous, et notamment d'une femme assez forte qui se goinfrait de canapé au fromage sous l'œil désapprobateur des serveurs qui n'étaient pas parvenus à lui résister. À sa fille, Colette, venue lui dire qu'il était d'usage d'attendre que le buffet soit officiellement ouvert, Geneviève avait répondu « Pour qu'il reste plus rien de potable, merci bien !» L'explosion surprit tout le monde. Elle s'était produite assez loin, mais elle était suffisamment puissante pour avoir fait trembler les verres. On cessa de parler. Les regards se tournèrent vers la porte. Les attentats en faveur de l'Algérie française étaient encore dans tous les esprits et avaient fait suffisamment de dégâts pour continuer de s'inquiéter. Normalement, le feu d'artifice, c'est à la fin, dit finement le président. On pouffa, ha ha ha. Mesdames et messieurs, nous voici. Le discours ne fut pas suivi avec beaucoup d'assiduité. La détonation avait fait un gros effet. C'est du côté de la marque, chuchota quelqu'un. Oh, qu'est-ce que ça peut être? Il vous reste des petits pâtés en croûte? Demanda Geneviève au serveur qui regardait ostensiblement ailleurs. À cet instant, Jean venait de tourner la rue Caulaincourt. La détonation avait fait trembler le trottoir et s'était accompagnée d'un bruit de vitres qui tombent. Instinctivement, il recula d'un pas. La rue était jonchée de morceaux de plâtre, de bois brisé, des flammes s'échappaient par la large brèche ouverte dans la façade de l'immeuble au troisième étage. Tout le monde s'écartait, une abondante fumée sortait déjà par toutes les ouvertures.
Pierre Lemaître, et là c'est le cas de le dire, c'est un feu roulant. C'est un imaginaire sur les personnages, sur les situations absolument hallucinant. Bon, je vous laisse là-dessus mes amis, c'était l'émission Le Balado des livres pleins les oreilles, réalisée, animée pour vous avec l'aide magique de mon ami Mathieu Tessier, par Clotilde Sey qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais de toute façon, vous pouvez écouter ce balado quand vous voulez mes amis, mais la semaine prochaine ce sera un nouveau balado. Oh, faut tout vous dire.